Bienvenidos a este informativo de Radio France. Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde sur RFI. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, Accent du Monde. Pendant 20 minutes, c'est RFI dans toute sa diversité, avec le regard des différentes rédactions qui font la richesse de notre radio. Ce soir, nos trois interlocuteurs, Lucille Gimbert de la rédaction hispanophone.
Buenas tardes.
La rédaction vietnamienne qui est ce soir représentée par Tana Tran.
Ciao Romain.
Et puis la rédaction persane Aziz Fard.
Salam, bonjour.
Bonsoir à vous trois. Alors un grand sujet a retenu votre attention à vous tous hein, cette semaine, c'est la fin du congrès du Parti communiste chinois, 19e congrès du Parti communiste chinois qui a consacré Xi Jinping, le président chinois, donc reconduit à la tête du parti pour un nouveau mandat de 5 ans. Alors consacré, c'est bien le terme, hein, puisque désormais le nom même de Xi Jinping est inscrit dans la charte du Parti communiste chinois, c'est ce qui ressort d'un vote des délégués du congrès, donc cette semaine à Pékin. Voilà qui fait de Xi Jinping le dirigeant le plus puissant en Chine depuis Mao Tse-tung. De quoi s'intéresser un peu plus à cet homme, hein, Lucille Gimbert. Qui est-il? C'est la question que vous êtes posée à la rédaction hispanophone.
Oui, Xi Jinping appartient à la puissante caste des princes rouges, ces descendants des révolutionnaires qui prirent le pouvoir en 1949 avant d'être broyés par les purges de Mao Tse-tung. Son père est d'ailleurs l'un des fondateurs de la guérilla communiste et il a été purgé, si on peut dire de cette façon. Malgré un diplôme d'ingénieur chimiste, Xi Jinping, il a fait carrière au sein du Parti communiste où il entre à 21 ans, il gravit les échelons un à un, et puis d'abord en province. Et puis aujourd'hui, la propagande insistait vraiment sur ces années qu'il a passées durant sa jeunesse à la campagne en raison de la révolution culturelle. On dit même qu'il vivait dans une grotte. Xi Jinping cherche à cultiver son image de président proche du peuple avec ses souvenirs du passé et puis avec des apparitions récurrentes avec la population. Et pourtant, il est né dans des milieux plutôt aisé à Pékin, dans une famille aisée à Pékin. De l'histoire de son père, qu'a-t-il tiré? A priori, pas d'esprit de vengeance contre le parti, mais plutôt la volonté de le réparer. C'est en tout cas ce que considère le journaliste François Bougon dans son livre sur le leader chinois. Ce leader chinois au visage rond, air bonhomme, mais il faut pas oublier qu'il tient le pays, avec d'une main de fer. Tout contre-pouvoir est réprimé, et puis pour lui, c'est une condition sine qua non pour assurer la stabilité et la prospérité chinoise.
Voilà donc pour la biographie de Xi Jinping, un dirigeant chinois donc qui rejoint au panthéon communiste hein, Mao Tse-tung, encore Deng Xiaoping. Pourtant, Xi Jinping, Lucille Gimbert, n'est ni un intellectuel ni un féru de théorie politique.
Ouais, c'est exact. Et son bilan en 5 ans est même presque maigre, considèrent certains experts. Il a pour lui, ça c'est sûr, d'avoir lancé une grande politique contre la corruption. Mais Xi Jinping a surtout cimenté son pouvoir en faisant jouer la peur. Personne ne voulant être atteint par cette campagne anticorruption, il a réussi à resserrer les rangs autour de lui et puis à remettre en cause cette direction collégiale qu'avait mis en place Deng Xiaoping, justement pour éviter ce culte de la personnalité, un culte de la personnalité dont il bénéficie.
Donc on l'a dit, après le congrès du Parti communiste chinois qui s'est tenu cette semaine à Pékin, Xi Jinping est devenu l'un des dirigeants les plus puissants de l'histoire de la Chine. Est-ce qu'il est en train de devenir l'un des dirigeants les plus puissants tout simplement dans le monde?
C'est en tout cas l'opinion de la revue The Economist qui en a fait sa couverture mi-octobre. Ce qui est sûr, c'est que le dirigeant chinois profite du vide laissé par le président des États-Unis Donald Trump, qui lui a opté pour le repli commercial. Xi Jinping lui prône le libre-échange, le respect de l'environnement. Il a même déclaré à Davos en début d'année, le protectionnisme s'est enfermé dans le noir et puis il n'hésite plus à présenter son pays comme un champion économique mondial. Et cette pensée qu'on a inscrite cette semaine dans la charte du Parti communiste chinois promet cet avènement d'une grande renaissance de la Chine. Encore faudra-t-il qu'il ne soit pas rattrapé ni par la corruption, ni par les inégalités ou encore par la pollution qui empoisonne les Chinois.
Alors vous avez évoqué, Lucille, le culte de la personnalité autour de Xi Jinping. C'est également un aspect auquel vous vous êtes intéressé à Aziz Fard de la rédaction en persan.
Oui, le culte de la personnalité, c'est quelque chose de connu chez nous, certaines personnalités qui ont le culte ont la légitimité pour l'avoir, d'autres ne l'ont pas. Dans le bazar politique de l'Afghanistan, mais aussi de l'Iran, non seulement ça existe, mais on pourrait dire que ça fait partie d'un marché qu'on pourrait qualifier de marché de caricature, du second degré. En fait, Nos pays sont noyés dans ce genre de titres, voire même saturés, parce que déjà Ayatollah, quand on appelle Ayatollah Khomeini ou Khamenei, Ayatollah, Ola, c'est Dieu, Ayat, c'est preuve de Dieu ou verbe de Dieu, ou en tout cas Ayat, c'est aussi le mot qui se dit pour les versets du Coran. Donc quelqu'un qui a un titre aussi élevé, ça fait, c'est presque pas musulman, c'est presque en contradiction avec les principes de l'islam, mais voilà, c'est pour dire que on a aussi l'habitude d'exagérer. Sauf que la Chine, c'est différent. Encore un mot pour l'exagération chez nous. En Afghanistan, ceux qui sont docteurs, ils aiment bien exhiber leur titre de docteur, mais ça ne suffit pas. Et ceux qui sont ingénieurs, les concurrents, et ils disent aussi ingénieur Intel. Et le plus drôle, c'est que récemment, j'ai vu dans Facebook quelqu'un qui avait mis devant son nom pharmacien Intel. Parce que c'est aussi médical, il a pensé que si le docteur a le droit de s'appeler docteur, pourquoi pas le pharmacien aussi, qui ça serait le pharmacien Intel. Voilà, donc c'est un bazar un peu bizarre, disons, un bazar un peu bizarre. Mais dans tout ça, il y a aussi Ashraf Ghani, le président afghan, qui est appelé par certains de ses partisans comme étant le deuxième tête pensante du monde, sans préciser qui serait la première tête pensante. Eh bien, voilà, ses partisans l'appellent comme ça, et ceux qui sont pas pour lui, ils s'en moquent un peu. Voilà, pour revenir en Chine, pour la question chinoise, ça a l'air plus lourd, ça a l'air plus sérieux, non pas pour la personnalité de Xi Jinping, comme vous avez dit, il est loin d'égaler Mao Tse-tung, mais pour le pays, la Chine, c'est un pays important et nous sommes tous conscients que ce qui se passe là-bas, il faut le prendre au sérieux.
Alors, dernière intervention à propos justement du congrès du Parti communiste chinois, cette semaine, le point de vue de la rédaction vietnamienne de RFI, Tran A Tran, comment est-ce que vous avez couvert cette grande messe du Parti communiste chinois qui s'est tenue cette semaine à Pékin?
Eh bien, nous avons parlé de ce sujet sous différents angles, mais on a surtout retenu un aspect particulier qui est la pensée de Xi Jinping, qui est écrite maintenant dans la charte du parti. Alors, cette pensée de Xi Jinping, dont se résume à une formule assez simple, d'après ce qu'on avait vu lors de son discours fleuve inaugural de plus de 3 heures, c'est la répression à l'intérieur et l'agression à l'extérieur, comme l'a analysé notre intervenant, professeur Ngo Vinh Long, spécialiste de la Chine et de la mer de Chine à l'université Maine aux États-Unis. Écoutons-le.
Alors, que dit-il ?
Alors, tous les analystes s'accordent à dire que Xi Jinping est en train de concentrer le pouvoir entre ses mains, consolider son assise au plus haut niveau du PCC. Il se hisse au même niveau que Mao Zedong, mais en fait, au fond, cette hyper-concentration révèle que Xi Jinping et son clan se sentent menacés, du moins, ils sentent ou ils prévoient qu'il y aura un vent de défi qui pourrait être le germe d'un soulèvement dans le futur. Et en fait, au fond, en dehors du fait de s'affirmer Xi Jinping, mais également en avant son bilan au cours de son discours inaugural, il met en avant aussi son bilan économique, sa politique intérieure, il vante sa politique régionale, dont la route de la soie en est un des exemples les plus frappants.
Alors, on posait la question de savoir si Xi Jinping était aujourd'hui le dirigeant le plus puissant du monde. Peut-être est-il en train de prendre la place libre, laissée par les États-Unis de Donald Trump. Lucille Gimbert de la rédaction hispanophone évoquait cet aspect-là. Qu'en pensez-vous du côté de la rédaction vietnamienne?
Alors, tout à fait. D'autant plus que on sait que sur le plan politique extérieur, la semaine prochaine va être une semaine cruciale parce que Xi Jinping s'apprête à accueillir Donald Trump à Pékin. Il est certain aussi que tous les pays de la région, y compris les plus vigilants vis-à-vis de Pékin, sont à l'heure actuelle englués dans leurs propres soucis, et ce qui laisse la main libre à Xi Jinping.
20
Accent du monde sur RFI.
Romain Ouzoui.
Accent du Monde ce soir en compagnie des rédactions persanes, hispanophones et vietnamiennes de RFI. On a évoqué Xi Jinping, le dirigeant chinois, reconduit cette semaine à la tête du Parti communiste. On va continuer à en parler justement avec vous, hein, Tana Tran, cette fois sous l'angle des relations entre la Chine et le Vietnam, puisque vous êtes de la rédaction vietnamienne. Vous faites un parallèle précisément entre les économies de ces deux pays.
Oui, effectivement, parce qu'il y a à la fois une certaine proximité, une certaine interactivité entre ces deux économies. Les deux pays ont une frontière terrestre commune de plus de 1300 kilomètres. Elles sont étroitement liées par le commerce, par les échanges maritimes et idéologiquement, ces deux économies sont proches parce que ce sont toutes les deux les économies de marché avec une orientation socialiste. Ces modèles reposent sur l'exportation et l'investissement direct étranger. Et comme la Chine, mais dans une moindre mesure, le Vietnam doit faire face à un certain nombre de défis et intérieur et extérieur. Vous voulez que je détaille les défis intérieurs? Alors les détails les défis intérieurs, c'est le poids des entreprises étatiques qui engloutissent beaucoup de capitaux mais produisent peu. Et ce sont aussi les économies gangrénées par la corruption.
Et à l'extérieur,
le Vietnam est aussi un fervent défenseur de l'économie globalisée, comme Xi Jinping, et se bat pour maintenir le TPP, le traité transpacifique que les États-Unis ont voulu retirer.
Donc voilà pour les relations Chine-Vietnam. Voyons à présent les défis qui attendent Xi Jinping dans ce domaine.
Voilà, donc tous les défis qui attendent la Chine sont très suivis par le Vietnam. On sait que pour la première fois, le dirigeant chinois n'évoque pas concrètement les objectifs de croissance, mais parle d'une croissance stable. Toutefois, il faut savoir que l'économie chinoise est fragilisée par de nombreux déséquilibres, en premier lieu desquels l'explosion de la dette. Écoutons l'analyse de notre invité, l'économiste Nguyễn Xuân Nghĩa, basé en Californie aux États-Unis.
Alors que dit-il?
Le problème de la dette est la plus grande menace à court terme, mais elle n'est pas la seule, car le déséquilibre trop longtemps toléré, accepté par tous entre les zones au bord de mer et la Chine intérieure, pouvant être une bombe à retardement. Avant Xi Jinping, ses prédécesseurs ont essayé d'y remédier sans trop y arriver. En fait, pour conclure, je dirais que Xi Jinping est en fait parfaitement conscient que sa stabilité politique de la Chine est son principal atout pour asseoir son pouvoir. Or, celle-ci passe avant tout par la stabilité économique.
RFI. Et on voit à présent le choix de la rédaction hispanophone, Lucille Gimbert. Vous allez nous parler du coup de force des paysans en Colombie. Plusieurs milliers d'entre eux ont entamé cette semaine une grève illimitée dans 5 départements de Colombie. Et parmi eux, notamment, il y a de nombreux producteurs de coca. Qu'est-ce qu'ils réclament?
Alors, ils exigent la fin de la campagne d'éradication forcée des cultures illicites, cette campagne menée par le gouvernement. Et ils demandent le respect des accords de paix signés avec les FARC, donc cette guérilla. Ces accords incluent un plan de substitution pour ces producteurs de feuilles de coca et de cannabis, notamment. Ça veut dire concrètement offrir aux cocaleros des alternatives de développement dans ces zones rurales où l'État est structurellement faible et où il y a peu, voire pas de perspectives pour les jeunes. Mais ces alternatives de développement tardent à arriver. C'est ce que nous a dit Angélica Redberg, elle est professeure à l'Université des Andes à Bogota. On l'écoute.
Se trata de un problema internacional sistémico del cual Colombia solo juega una parte.
Que dit-elle?
Elle considère que penser que le trafic de drogue prendrait fin avec la fin des FARC, c'est une chimère, que la solution est internationale, qu'elle passe également avec les pays consommateurs. Elle ajoute que le gouvernement colombien répond aussi dans cette politique d'éradication à la force, à la pression des États-Unis, parce que face à l'augmentation des cultures illicites, Washington exige des mesures catégoriques. Et c'est donc dans ce contexte qu'il faut comprendre la décision du président Santos de militariser, par exemple, la zone de Tumaco, près de la frontière de l'Équateur.
Alors on va s'intéresser s'intéresser justement, Lucille, avec vous à cette zone de Tumaco, hein, qui est très sensible. Au début du mois d'octobre, en effet, 6 paysans sont morts dans cette zone de Tumaco lors d'une manifestation qui était destinée à protester contre l'éradication forcée des plantations de coca.
Oui, alors le gouvernement accuse les dissidents des FARC d'être responsables de ces morts, tandis que les cocaleros, eux, pointent du doigt les forces de l'ordre. Pour comprendre, il faut s'imaginer que Tumaco est une zone de forte production de coca au niveau de la Colombie, et ce, dû à sa proximité avec le port de Buenaventura, c'est sur la côte pacifique. C'est de là que partent les cargaisons de drogue vers les États-Unis. Ce qui est sûr, c'est que les paysans de Tumaco, comme des autres régions rurales où prolifèrent les cultures illicites et qui sont en grève en ce moment, eh bien, ils sont au milieu d'un feu croisé de nombreux groupes armés qui se battent entre eux pour récupérer un espace laissé par la démobilisation des FARC. Ces groupes, ces dissidents des FARC qui refusent les accords de La Havane, même s'ils sont peu nombreux, la seconde guérilla de l'ELN, pardon, qui est en négociation de paix actuellement, et puis aussi des groupes d'origine paramilitaire qui officient dans le trafic de drogue et l'exploitation minière illégale et qui évidemment voient dans le retrait des FARC une opportunité d'augmenter leur pouvoir et leur territoire.
De l'économie, encore du côté de la rédaction, Persan Aziz Fard, avec l'initiative du gouvernement iranien pour aider les chômeurs diplômés.
Oui, le gouvernement iranien cherche à aider les chômeurs diplômés, qui sont 2 millions dans ce pays. Et il s'agit d'un projet qui ne concerne en fait que 94 000 personnes. Autant dire une toute petite minorité parmi les gens intéressés. Et nous avons interviewé à ce sujet un professeur d'économie en Iran, qui s'appelle Fariborz Reis Danan et qui est connu pour ses idées marxistes.
Alors, que nous dit-il ?
Il dit, déjà, il y a 2 mois, quand ils ont commencé à parler de ce projet, eux, ils s'y sont opposés parce que, en fait, ils trouvaient que c'est un projet pas valable. La raison de cette opposition, c'est que pour ce premier emploi, les diplômés seraient embauchés pour un tiers du salaire habituel et ils n'ont aucune garantie d'embauche sur le long terme. Et puis que cela ne concerne que 94 000, alors que lorsqu'ils ont ouvert cette liste, il y a eu 300 à 350 000 personnes qui se sont inscrites. Et d'après lui, jusqu'à aujourd'hui, ils sont peut-être 500 000 à s'être inscrits sur cette liste. Et donc seulement 94 000 personnes qui seraient couvertes, ce n'est pas suffisant. Et là, en fait, dans la suite, on a l'impression d'assister à une sorte de concurrence pour savoir qui représente le prolétariat. Parce que vous savez que le régime islamique a aussi la prétention de représenter non pas le prolétariat, mais les pauvres, les délaissés, tous ces gens qui ont besoin d'être aidés. Ça fait partie de leur prétention. Et les marxistes, c'est plus précis, c'est le prolétariat. Et donc, on voit une concurrence un peu anachronique. On a l'impression d'assister à un débat des années 70. Et pourtant, ça se passe aujourd'hui. Et c'est le gouvernement actuel de l'Iran qui propose ça. Et pour finir, donc, ce monsieur, Reis Danan, le marxiste, il précise que ce projet, en fait, ça casse le prolétariat. C'est pas bon pour le prolétariat. C'est pas bon pour la dignité des personnes qui participent à ce projet. Et in fine, ça profite à la bourgeoisie.
Alors le monsieur justement que vous citez et qu'on vient d'entendre, vous l'avez dit, est un économiste qui est connu pour ses idées marxistes. Comment est-ce qu'un marxiste aujourd'hui encore peut s'exprimer dans un régime dictatorial iranien ?
Voilà, c'est que l'Iran c'est un très grand pays, c'est un pays complexe. Des marxistes qui ont été exécutés, on en a vent pendant toutes ces années plein de fois. Les partis communistes n'ont pas le droit de citer et pourtant on voit comme ça des individus qui arrivent quand même, en respectant un certain nombre de choses, à continuer à non seulement exercer leur boulot, mais aussi tenir un discours au niveau des médias. Voilà, donc la conclusion, c'est en fait tout simplement que c'est compliqué, c'est pas aussi simple qu'on a l'impression dans un régime islamique, totalitaire, dictatorial. Il y a toujours une concurrence entre marxistes et islamistes.
Merci beaucoup Aziz Farr de la rédaction en langue persane de RFI. Merci également à vous Lucille Gimbert de la rédaction hispanophone et à Tana Tran de la rédaction vietnamienne. Accent du monde s'achève pour aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet le www.rfi.fr. Merci à Quentin Bresson qui était à la réalisation de cette émission. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans quelques secondes. Un nouveau journal sur RFI.